Bonjour Bernard Accoyer.
Bonjour.
À votre connaissance, des négociations discrètes, pour ne pas dire secrètes, sont-elles en cours entre Emmanuel Macron et des élus républicains tendance juppéiste?
Je pense que M. Macron et son entourage cherchent effectivement à recruter des personnalités qui donneraient une image qui changerait des pratiques habituelles. Peut-être que une ou deux personnalités céderont. Mais
pour Macron, des postes de premier plan, comme Premier ministre, par exemple?
Je ne peux pas vous le dire, il faudrait demander à M. Macron. Ce que je sais, c'est que pour les investitures que En Marche nous avait annoncées avant la présidentielle, on en a eu 14.
Oui, tout devait être dévoilé aujourd'hui.
On devait connaître tous les candidats aujourd'hui, mais je peux vous donner une information ce matin, c'est que hier encore, Monsieur Delevoye et son entourage appelaient des élus LR et UDI pour se livrer et leur proposer des débauchages individuels. Donc on voit bien que le renouvellement est un renouvellement qui en a le nom, mais qui méritera d'être regardé de plus près, parce que finalement, avec le recyclage, grosso modo, de plus d'un tiers des députés socialistes, avec les personnels politiques qui entourent le MoDem de Monsieur, ou qui composent le MoDem de Monsieur Bayrou, il restera des places, c'est vrai, pour les candidats Internet qui n'auront guère d'expérience. Et avec ces députés, avec cette majorité, il faudra réformer le pays. Bon, donc tout cela n'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le dire.
Jean-Paul Delevoye, dont vous parliez, qui est le président de la commission d'investiture de ce que l'on appelle désormais la République En Marche. Donc vous dites comment ça marche? On les appelle, on leur passe un coup de fil?
Oui, j'ai eu des remontées hier me disant, tiens, j'ai été appelé par un tel pour me proposer de devenir un candidat En Marche.
Sans succès pour l'instant?
Oui, à ça je peux vous dire qu'il n'y a pas de candidat aux législatives républicains qui est cédé à ces appels du pied. Et d'ailleurs, il n'est pas possible d'appartenir à deux mouvements politiques simultanément. Maintenant, comme ça l'a toujours été et comme ça le sera toujours. Parce que les Français, et c'est normal, c'est le premier de leurs droits, exigent de la clarté.
Vous croyez au scénario d'un Premier ministre de droite choisi par Emmanuel Macron? Le nom d'Édouard Philippe, le maire du Havre, circule depuis plusieurs
jours. Oui, je l'ai entendu. J'ai parlé avec Édouard Philippe encore récemment, que je ne peux pas vous donner de réponse.
Mais qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il confirme qu'il est approché, qu'il y réfléchit?
Qu'il soit approché, je crois qu'il l'est, oui. Maintenant qu'il ait pris sa décision, la dernière fois que je lui ai parlé, il ne l'avait pas prise. Et d'ailleurs, est-ce que M. Macron a pris une décision dans cette direction? Tout cela, ce sont des supputations pour essayer de composer un gouvernement qui donne une image. Mais c'est surtout cela qui est important, une image. Mais il s'agit du gouvernement de la France. Surtout, nous sommes dans une période où les Français ne se sont pas politiquement prononcés. Parce que nous avons eu une présidentielle qui était tout à fait escamotée par les affaires. Au deuxième tour, il n'y a pas eu de débat projet contre projet, puisqu'une bonne partie de ceux qui ont voté pour M. Macron l'ont fait pour voter contre Mme Le Pen. Et donc le débat démocratique, c'est maintenant. Et dans un régime parlementaire, et c'est notre République qui est une République parlementaire, c'est bien de la majorité issue à l'Assemblée que ressort la politique qui sera traitée et qui sera suivie dans les années à venir. Et donc, il faut que ce temps soit respecté, que le débat ait lieu, projet contre projet, et ensuite, alors, le chef de l'État nommera un Premier ministre.
Enfin, il va en nommer un avant les législatives.
Il va en nommer un avant, mais c'est dans une période qui est une période d'imprécision, je dirais une sorte de période de lévitation politique, puisque nous n'avons pas eu une consultation vraiment politique pour ces présidentielles. C'est la première fois après, c'est la deuxième fois après après 2002.
Ouais. Alors,
le 21 avril 2002.
Lors du comité de campagne pour les législatives des Républicains hier, vous avez, je cite, déploré les déclarations qui inquiètent, qui démotivent et qui jettent la confusion chez les électeurs de droite. Qui visiez-vous par ces propos?
Oh, c'est une mise en garde assez générale quand on est en campagne et qu'on a affaire à des adversaires qui essayent de brouiller les cartes en recrutant parmi nos propres amis. Il est important de rappeler ce qu'espèrent de leurs élus et de leurs représentants politiques nos électeurs et les Français qui se retrouvent dans les mêmes idées et les mêmes valeurs que celles que nous défendons.
Et de rappeler vos élus à la loyauté.
Je n'ai pas besoin de le faire pour l'immense majorité d'entre eux. C'est mon rôle de secrétaire général. Oui. D'autant plus que nous sommes en campagne législative et que nous apportons, pour ce qui est des Républicains et de l'UDI, puisque nous sommes alliés dans cette élection législative, nous apportons un renouvellement très important.
Alors,
nous
allons... on va en parler justement, puisque François Baroin a présenté hier le programme des Républicains pour les législatives, un programme qui est sensiblement différent de celui de François Fillon pendant la campagne présidentielle. Plus d'augmentation de la TVA, moins de postes de fonctionnaires supprimés, rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées et réduction d'impôts massive. Pourquoi tous ces changements? Puisque pendant la campagne, on nous a expliqué de votre côté que le programme de François Fillon était formidable, qu'il était le meilleur et que finalement ce qui a plombé sa campagne, ça n'était en aucun cas son programme, mais les affaires.
D'abord, le programme qui a été construit avec l'UDI l'a été également avec les programmes de tous les candidats à la primaire. Nous avons perdu l'élection présidentielle, ça ne vous a pas échappé. Et donc il fallait donner à notre programme un supplément qui devait être la synthèse de tout ce que proposent les alliés qui composent les Républicains et l'UDI. Et c'est un programme qui effectivement a une priorité, aucune hausse d'impôts et même un certain nombre de baisses d'impôts, parce qu'il privilégie le pouvoir d'achat. Il privilégie la compétitivité et le pouvoir d'achat. Et pour cette raison, les charges fiscales en particulier vont baisser. Surtout pour les ménages moyens qui ont été matraqués fiscalement pendant les 5 ans de présidence Hollande. Il y aura également, il y a des dispositions pour les petites retraites, pour les veuves. Le pouvoir d'achat est au cœur de ce projet. Et surtout, il a un engagement, un marqueur, aucun impôt supplémentaire. Alors que le programme de M. Macron... c'est, avant même d'avoir commencé, on continue comme avant à gauche, c'est-à-dire qu'on prévoit près de 2 points d'augmentation de la CSG. La CSG qui est l'impôt le plus lourd, y compris pour ceux qui ont des ressources modestes.
Vous avez bien compris ma question, Bernard Accoyer. Est-ce qu'au fond, le programme de François Fillon n'était pas aussi en partie responsable de son échec, alors qu'on a tout mis, encore une fois, de votre côté, sur le dos des affaires?
La primaire s'est déroulée, l'élection présidentielle s'est déroulée dans des conditions anormales. Et le programme de François Fillon a une grille de lecture qui est celle d'une reprise de l'activité et visait le plein emploi. Bon, il a aussi un certain nombre de dispositions qui ont pu... inquiété. Et ces dispositions ont été aménagées pour qu'il soit à la fois un programme de redressement, un programme de pouvoir d'achat et un programme, nous le souhaitons, de succès.
Si les Républicains n'ont pas, comme vous l'espérez, la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce que vous serez dans une forme d'opposition constructive? Par exemple, est-ce que, puisque ça correspond à vos idées, est-ce que vous soutiendriez le projet d'Emmanuel Macron d'aller plus loin dans la réforme du travail?
Oui, mais nous l'avons fait. Je vous rappelle que lors de la dernière législature, la première mouture de la loi travail, donc de la loi Macron, nous convenait parfaitement et que nous l'aurions votée. Elle a été profondément remaniée pour essayer de la faire accepter par la majorité du groupe socialiste qui était très divisé. Et du coup, ensuite, elle ne ressemblait plus à grand-chose. Mais oui, nous ne sommes pas des opposants systématiques aux Républicains. Et nous servons l'intérêt général. Et si un gouvernement, alors que nous ne serions pas majoritaires, ce que je ne pense pas, nous propose quelque chose qui va bien pour l'intérêt général de notre pays, bien sûr, nous le soutiendrons et nous le voterons.
Un petit mot très vite sur Manuel Valls. François Baroin, hier, ne trouvait pas Emmanuel Macron très bienveillant à l'égard de l'ancien Premier ministre? Qu'est-ce que vous...
Cette scène où on claque la porte à la figure d'un ancien Premier ministre de la France qui vient, après avoir soutenu le candidat qui a été élu, demander à être investi, m'est apparu d'une grande violence. Et je crois que derrière l'image souriante que l'on nous donne de cette nouvelle exécutif, il faut aussi voir qu'il y a peut-être malheureusement des penchants que l'on connaît lorsque l'on accède au pouvoir.
Merci Bernard Accoyer. Bonne journée.